Laudetur Jesus Christus.
Paix, vérité et justice, trois mots autour desquels la diplomatie du Saint-Siège doit s'articuler, des mots employés ce matin par le pape Léon XIV dans son premier discours au Cordi prédité près de Saint-Siège. Nous y revenons bien sûr en détail juste après ces titres. Les discussions sur l'avenir de l'Ukraine, toujours au cœur d'un intense ballet diplomatique en Turquie ce vendredi. À Istanbul, délégations russes et ukrainiennes mais aussi américaines, des réunions tripartites mais sans la présence de Vladimir Poutine. À la une de ce journal également, ce nouveau rapport sur la faim et la malnutrition dans le monde, près de 300 millions de personnes sont menacées de famine, en grande partie en raison des conflits, c'est ce que nous dira un membre de la FAO. Et puis nous irons aussi au Tchad où l'ancien Premier ministre Succès Masra a été arrêté ce matin à son domicile, une arrestation qui inquiète les partisans de la démocratie.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Premier discours du pape Léon XIV au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège ce vendredi matin. Un rendez-vous très important de ce début de pontificat qui s'est tenu dans la salle clémentine du palais apostolique. Le nouveau souverain pontife qui a partagé sa vision de la diplomatie pontificale et celle-ci, Xavier Sartre, doit être missionnaire.
Et pour ce faire, Olivier, il faut déjà que les diplomates accrédités près le Saint-Siège aient la sensation d'appartenir à une famille, une petite société, mais antérieure à toute société civile. Des mots repris de Rerum Novarum, en effet, dans la vision de Léon XIV que l'on commence à découvrir au fil des premiers discours, la paix se construit dans le cœur et part du cœur. Elle se construit au quotidien, dans les actes et dans les mots. Je vous propose de l'écouter.
Nella prospettiva cristiana, come anche in quella di altre esperienze religiose,
dans la perspective chrétienne, comme dans d'autres expériences religieuses, la paix est avant tout un don, le premier don du Christ. Je vous donne ma paix. Un don, Olivier, qui est actif et engageant et nous concerne tous. La paix est donc le premier pilier pour l'action missionnaire et diplomatique du Saint-Siège. Le deuxième étant la justice. Une justice au service de la lutte contre les inégalités sociales. Léon XIV qui s'inspire ainsi de son propre parcours.
La mia stessa storia è quella di un cittadino discendente di immigrati, a sua volta emigrato.
Mon histoire est celle d'un citoyen descendant d'immigrés, lui-même émigré. Au cours de la vie, chacun d'entre nous peut se retrouver en bonne santé ou malade, avec ou sans emploi dans sa patrie ou en terre étrangère. Cependant, sa dignité reste toujours la même, celle d'une créature voulue et aimée de Dieu.
Alors la paix, la justice, il y a aussi un troisième pilier sur laquelle doit se construire cette diplomatie missionnaire, Xavier.
Eh bien, c'est la vérité. Dans un monde virtuel où les mots revêtent des connotations ambiguës, l'Église, explique le nouvel évêque de Rome, ne doit jamais se soustraire à son devoir de dire la vérité sur l'homme et sur le monde. Elle peut recourir à un langage franc, mais attention, toujours dans la charité. Les mots peuvent blesser, a par ailleurs redit Léon XIV, mais c'est la vérité qui nous permettra d'affronter les défis de notre temps, soit les migrations, l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle et la sauvegarde de notre terre bien-aimée. Enfin, le souverain pontife appelle les diplomates et chacun d'entre nous à laisser derrière nous les conflits, à réaliser son humanité dans la vérité, en espérant que ce chemin de conversion mène à la paix dans les contextes plus éprouvés, dit-il, comme l'Ukraine ou la Terre Sainte.
Xavier Sartre, merci beaucoup. Le Saint-Siège qui entretient des relations diplomatiques, je vous le rappelle, avec 184 pays dans le monde. Pour retrouver en détail ce premier discours au corps diplomatique, une seule adresse, bien sûr, vaticannews.va. L'Ukraine, vous venez de le dire, a été évoquée par le pape Léon XIV dans ce discours ce matin et dont l'avenir est au cœur des discussions diplomatiques qui se déroulent ce vendredi à Istanbul, en Turquie. Des délégations russes et ukrainiennes ont été dépêchées sur les bords du Bosphore, des pourparlers qui se font sous l'égide de la Turquie, mais aussi en présence des États-Unis. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est en effet présent dans la ville turque. La priorité de Kiev est d'obtenir de Moscou un cessez-le-feu inconditionnel. Que peut-on espérer de ces discussions ? Les précisions de notre correspondante en Turquie, Anne Andlauer.
Cette journée diplomatique intense a commencé dans la matinée par une réunion trilatérale entre la délégation ukrainienne, des représentants de la Turquie et des États-Unis emmenés pour ces trois pays par leur ministre des Affaires étrangères. L'échange a duré une heure et doit être suivi par la rencontre la plus attendue de la journée, une réunion entre la délégation russe et la délégation ukrainienne encadrée par la Turquie. Très attendue car c'est la première fois depuis mars 2022, c'est-à-dire quasiment depuis le début de la guerre, que les Russes et les Ukrainiens se parlent directement. Il est très difficile de prévoir l'issue de ces échanges. Un accord de paix ne paraît pas réaliste à ce stade. Ces contacts sont présentés comme avant tout techniques, une façon d'évaluer la position adverse. Les Ukrainiens, qui ont exprimé leurs doutes sur le pouvoir de décision des négociateurs russes, recherchent avant tout un cessez-le-feu avant de discuter plus avant. Ils se sont dit prêts à un cessez-le-feu sans condition à Istanbul. L'Ukraine espère aussi négocier une rencontre des présidents Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine. Le chef de l'État ukrainien avait mis son homologue russe au défi de le retrouver à Istanbul. Mais Vladimir Poutine avait refusé de faire le déplacement. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
Et Ankara qui demande justement à l'instant un cessez-le-feu dès que possible en Ukraine. Istanbul qui est actuellement la plaque tournante de la diplomatie mondiale. Le secrétaire d'État américain Rubio y a rencontré ce matin, a-t-on appris, des conseillers diplomatiques français, britanniques et allemands afin d'évoquer le dossier du nucléaire iranien. Donald Trump, lui, a estimé que Téhéran et Washington étaient proches d'un accord, mais veut maintenir la pression sur le régime des Mollahs. Ils savent qu'ils doivent bouger rapidement ou quelque chose de mauvais arrivera, à menacer le président américain avant son départ d'Abu Dhabi, dernière étape de sa tournée dans les pays du Golfe. Autre conflit également dans les pensées prières du pape Léon, c'est celui interminable qui a réduit la bande de Gaza à un niveau de destruction rarement atteint. Les bombardements de l'armée israélienne se poursuivent. La défense civile gazaoui a annoncé la mort d'au moins 56 personnes ces dernières heures. À Gaza, où aucune aide humanitaire n'entre depuis le 2 mars dernier. De très nombreuses ONG comme les Nations Unies dénoncent une situation au bord de la famine. Donald Trump s'est même lui ému de la situation humanitaire dans l'enclave, lui qui termine sa tournée dans les pays du Golfe. Beaucoup de gens sont affamés, a concédé le chef de la Maison Blanche, qui rêve de faire de Gaza une zone de liberté en supervisant l'administration. La faim et la malnutrition dans le monde, qui sont l'objet d'un rapport annuel publié ce vendredi par le Réseau mondial contre les crises alimentaires, réseau qui regroupe la Banque mondiale, l'Union européenne et plusieurs agences de l'ONU. En premier lieu, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Selon ce rapport, la faim a frappé de façon aiguë un nombre record de 295 millions de personnes en 2024, et ce dans 53 pays, en particulier sous l'effet des conflits. Aurélien Mélin travaille au département des urgences de la FAO, dont le siège est à Rome.
Malheureusement, c'est la 9e édition qu'on publie et qui rapporte trois facteurs principaux de l'insécurité alimentaire aiguë dans le monde. Le premier étant le conflit et l'insécurité. C'est le premier facteur de l'insécurité alimentaire dans le monde au niveau mondial, notamment dans des pays par exemple comme le Soudan ou Haïti. L'insécurité aussi frappe à Haïti malheureusement et crée des situations d'insécurité alimentaire catastrophiques pour les populations affectées. Ça a créé une situation de famine au Soudan en 2024 et qui continue en 2025. D'autres facteurs importants aussi de l'insécurité alimentaire aiguë et des crises alimentaires sont notamment les chocs climatiques extrêmes. On a fait face à un phénomène de El Niño en 2024 très intense qui a affecté notamment la production agricole de beaucoup de pays en Afrique australe et en Afrique de l'Est. Notamment aussi les chocs économiques qui continuent d'affecter les populations les plus vulnérables et les plus fragiles dans le monde, notamment avec beaucoup de pays au Moyen-Orient qui font face à des conditions économiques très dures.
Aurélien Mélin de la FAO, interrogé par Stefano Leschinski. L'ONU appelle le Mali à abroger le décret qui a dissous les partis en début de semaine, ainsi qu'à rétablir pleinement les droits politiques dans le pays. Déclaration ce vendredi du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Volker Türk. Plusieurs opposants à la junte ont par ailleurs été arrêtés ces derniers jours au Mali. Selon l'ONU, le nombre de violations des droits humains dans le pays ne cesse d'augmenter. Une hausse de 120% de 2023 à 2024. Je vous l'annonçais dans les titres, l'actualité du continent africain, c'est aussi le Tchad où l'ancien Premier ministre Success Masra a été arrêté ce matin à son domicile par des hommes armés. Selon ses proches, aucun motif n'a été communiqué lors de cette arrestation. Nous y reviendrons plus en détail à 18h. Et puis après 19 mois de captivité à Libreville, l'ancien président gabonais Ali Bongo et sa famille ont été libérés et sont arrivés ce matin à Luanda, la capitale angolaise. Le président angolais João Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine, semble avoir joué un rôle important dans cette libération. Justice achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera bien entendu à 18h. Vous serez accompagné d'Alexandra Siergan. Excellent après-midi.